Vous écoutez, on lit pour vous.
En ligne pour l'éternité. Un texte de Philippe Marois, paru le 25 septembre 2023 dans Courrium. Disons que vous mourrez, là, maintenant. Qui héritera de vos photos, conversations et même créées avec soin? Avez-vous un testament? Probablement pas. Vos avoirs sont sans doute limités, mais il y a quelque chose que vous possédez en très grande quantité, des données en ligne, des photos, des conversations, des messages privés. Qu'adviendra-t-il d'eux? Suffirait-il d'un appel larmoyant de vos proches à Google ou à Apple pour récupérer ces précieux souvenirs? Vous n'y aviez jamais pensé? Heureusement, Courrium veille sur votre au-delà numérique. Les risques. Nos vies sont presque entièrement enregistrées en ligne. Nos contacts, notre agenda, nos déplacements, nos souvenirs de voyage, nos vidéos loufoques, toutes ces traces numériques se trouvent sur les serveurs des grandes entreprises technologiques, peut-être pour toujours. Vous savez, les conditions d'utilisation qu'on ne lit jamais en se créant un compte, eh bien, dans ce charabia de petits caractères se cache souvent la mention que si le compte n'est pas fermé, les données personnelles seront conservées indéfiniment, dans le sens de « pour l'éternité ». 1. La fermeture automatique. Vos proches informent un service en ligne de votre mort, en espérant avoir accès à vos données. Malheureusement, certaines compagnies prévoient qu'en cas de décès, le compte est automatiquement fermé. Toutes les données sont alors supprimées, irrécupérables, même vos belles photos souvenirs. 2. L'accès interdit. Si vos proches ne connaissent pas vos mots de passe, il leur sera impossible d'accéder au contenu de vos comptes. Les compagnies numériques se sont investies d'une mission quasi sacrée, protéger votre vie privée, même dans l'au-delà. 3. Le livre ouvert. Votre entourage connaît vos mots de passe? Super. Vos proches ont donc accès à tout, mais vraiment tout. Chaque photo, chaque vidéo, chaque texto, pensez-y bien, est-ce vraiment ce que vous souhaitez? Les solutions, il n'est jamais trop tôt pour prendre son héritage numérique en main. 1. La liste de vos comptes en ligne. La plupart contiennent peu d'informations personnelles, par exemple, la crèmerie du coin qui demande l'ouverture d'un compte en échange de 50% de rabais sur un trempage au chocolat. Ces comptes peuvent rester ouverts sans problème. Une poignée de comptes contiennent toutefois des informations très personnelles, réseaux sociaux, Google, Apple. Pour cela, il vaut la peine d'investiguer davantage. Que prévoient ces entreprises en cas de décès ou d'inactivité? 2. La configuration des paramètres. Plusieurs entreprises permettent de configurer notre compte selon nos dernières volontés. Il suffit de cocher la case appropriée. Google, le gestionnaire de compte inactif, permet d'effacer nos données ou d'autoriser qu'un proche y ait accès. Instagram, les proches peuvent demander qu'un compte soit supprimé ou transformé en compte de commémoration, mais ils ne peuvent accéder aux données. Apple, on peut ajouter un contact légataire qui aura accès à nos données en cas de décès. TikTok, sans code d'accès, il est impossible de supprimer un compte. Si vous voulez que vos proches le ferment après votre décès, il faut leur laisser vos informations. Sinon, vos vidéos seront conservées indéfiniment sur la plateforme. 3. Les directives aux proches. Rédigez une feuille de directive, téléversez les documents importants sur une clé USB et indiquez à la personne qui devra s'en charger à quel endroit les directives et la clé USB se trouvent. Mourir.com. L'ère numérique change notre rapport au deuil et à la mort. Cimetière numérique. D'ici 50 ans, Facebook comptera plus de profils de personnes décédées que d'internautes en vie, selon les projections du Oxford Internet Institute en 2019. Ces profils ne sont d'ailleurs pas cachés. Ils restent là, bien visibles. Ils figurent même parfois parmi les contacts en ligne. Parler avec les esprits. Les robots conversationnels permettent déjà de discuter avec des personnalités décédées, dont Steve Jobs. ChatGPT a été entraîné pour reproduire leur personnalité et leur tournure de phrase. À quand ce service pour les proches défunts et quelles seraient les conséquences sur le processus de deuil? Ma vie à la postérité. Une personne de 65 ans aura laissé en moyenne l'équivalent de 12% de sa vie dans l'environnement numérique. Cette proportion grimpe à 72% pour une personne de 25 ans et à 86% pour une ado. C'était « En ligne pour l'éternité », un texte de Philippe Marois, paru le 25 septembre 2023 dans Courrium.
Des pistes pour améliorer l'élagage des arbres sous les fils électriques. Un texte de Marine Corniou, paru dans le magazine Québec Science, février 2024. Comment concilier notre besoin d'arbres en ville avec la proximité des fils électriques? Depuis plus d'une décennie, le chercheur Christian Messier teste de nouvelles méthodes d'élagage. Réduction des îlots de chaleur, meilleur écoulement des eaux, bienfaits pour la santé humaine. Les services rendus par les arbres en ville sont innombrables. Mais la forêt urbaine demande un entretien régulier, en particulier pour ne pas interférer avec les réseaux électriques. La chaire Hydro-Québec sur le contrôle de la croissance des arbres mène justement des recherches pour revoir les pratiques d'élagage actuelles, critiquées par la communauté scientifique pour leur manque d'efficacité et de fondement scientifique. Elle a vu son mandat renouvelé en février 2023 pour la deuxième fois. Entrevue avec Christian Messier, titulaire de la chaire et professeur du département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Québec Science. On sait que la proximité d'arbres peut causer des dommages aux fils électriques. Et les techniques d'élagage employées pour réduire les risques sont remises en question par de nombreuses études. Christian Messier. En effet, Hydro-Québec préférerait ne pas avoir de gros arbres en dessous des fils, mais on en a besoin en ville pour toutes sortes de raisons, notamment pour réduire les îlots de chaleur. Or, quand on fait un élagage, sans tenir compte de la croissance de l'arbre, comme ce qui est fait actuellement, celui-ci va repousser le plus vite possible. Il produit de nombreux rejets, de nouvelles pousses, pour maximiser sa capture de lumière. Plus on le coupe, plus il y a donc besoin de couper. QS. Comment travaillez-vous à la chaire pour améliorer ces techniques d'élagage? CM. Nous partons de l'idée qu'il est préférable d'intervenir plutôt pour que les branches poussent spontanément loin des fils électriques et pour diminuer les besoins d'élagage récurrents. Il y a une douzaine d'années, on a planté 400 arbres de haute dimension dans un champ à Saint-Bruno. Ils appartiennent aux 6 grands groupes fonctionnels d'arbres que l'on retrouve en ville. Ces groupes sont fondés notamment sur la silhouette de l'arbre, sa vitesse de pousse, le mode de dispersion des graines, etc. On y teste différentes approches d'élagage avant que l'arbre atteigne la hauteur des fils électriques pour voir si on peut élaguer tout en maintenant la stabilité biomécanique des branches pour minimiser le risque de chute. QS. Quelles sont vos pistes de solution? CM. On en teste plusieurs. La première, classique, consiste à élaguer continuellement le jeune arbre pour qu'il développe deux branches principales ayant un angle de 45 degrés afin d'obtenir une fourche qui évite naturellement les fils. On utilise aussi une structure en métal qu'on laisse en place pendant 5-6 ans qui induit de façon mécanique un angle de 45 degrés. La troisième approche découle de mes observations en sous-bois. Lorsque les arbres cherchent la lumière, ils ont tendance à réduire la croissance de leurs flèches terminales et à pousser plutôt de façon latérale. Depuis 2 ans, on teste donc une sorte de bonnet en tissu opaque placé sur la flèche de l'arbre qui réduit un peu la lumière reçue et pousse l'arbre à rediriger ses ressources vers les branches latérales. QS. Vous misez aussi sur la technologie LIDAR au sein du projet Arbre en ville. En quoi consiste-t-il? CM. En collaboration avec l'entreprise québécoise de cartographie mobile Jacarto, nous recueillons des données LIDAR sur des arbres à Montréal. Les impulsions laser de l'outil permettent de numériser la géométrie de l'arbre. L'idée est de détecter quels sont les arbres qui ont vraiment besoin d'être élagués pour faire des interventions préventives ciblées plutôt que d'élaguer systématiquement tous les arbres d'une rue ou d'un quartier à chaque 4 ou 5 ans. On développe des algorithmes d'intelligence artificielle avec ma collègue Marie-Jean Meur qui nous aideront à voir quels arbres ont une structure plus fragile. En ce sens, le verglas de 2023 a été une bénédiction pour la recherche, car on venait justement de récolter des données sur des milliers d'arbres. Jacarto est repassé juste après la tempête pour voir quelles branches étaient tombées et essayer de déterminer rétrospectivement si on aurait pu le prédire. Au même titre qu'on utilise les technologies pour faire de l'agriculture de précision, je pense qu'on peut aussi aller vers une foresterie de haute précision. C'était des pistes pour améliorer l'élagage des arbres sous les fils électriques. Un texte de Marine Cornioux paru dans le magazine Québec Science, février 2024.
Airbnb illégal à Hochelaga. Que fait l'arrondissement? Un texte de Julien Simard, paru le 29 février 2024 dans Pivot. Devant l'inaction des autorités face aux locations touristiques qui grugent les vrais logements, reste la pression populaire. Vous avez peut-être vu l'immeuble neuf vandalisé à la peinture au coin des rues Chambly et Ontario près du Tim Hortons dans Hochelaga. C'est que l'édifice neuf est au moins en partie réservé à des locations à court terme sur Airbnb, en pleine crise du logement et alors que cela est illégal dans le quartier. Cette histoire est un symbole puissant des limites manifestes des pouvoirs municipaux pour endiguer la prolifération d'appartements touristiques à Montréal. Quand les Airbnb pullulent. Depuis 2023, un règlement établit clairement que tout hébergement touristique est interdit dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Vous avez seulement le droit d'exploiter un logement pour faire de l'hébergement touristique de courte durée si ce logement est votre résidence principale, lit-on aussi sur le site web de la ville. On trouve plus de 580 annonces d'Airbnb dans l'arrondissement. Même si c'était trop peu, trop tard, l'arrondissement avait dû agir pour limiter la perte d'appartements locatifs ordinaires, une des causes importantes de la crise du logement actuel. Et, comme souvent, la réglementation a un effet pour le moins incertain. En ce moment, selon la plateforme de données Inside Airbnb, on trouve plus de 580 annonces dans l'arrondissement et 70% de ces offres concernent des appartements entiers. Ce n'est pas tout. Le site nous apprend également que plus de 54 % des annonces ne sont pas liées à des permis émis par le gouvernement du Québec, pourtant obligatoires. Une dénommée Julie affiche plus de 17 appartements complets à louer. Bref, c'est le Far West. Une entreprise convaincue et un maire défaitiste. Comme nous l'apprenions dans la presse, le propriétaire de l'immeuble qui nous intéresse, soit les propriétés Strawberry Incorporated, est tout à fait au courant du règlement. La compagnie a même déposé une poursuite en août 2023 contre l'arrondissement pour faire changer les règles à son avantage. La poursuite se base sur la notion de droit acquis, puisque le règlement est passé alors que le bâtiment était déjà en construction. En parallèle, trois personnes ont obtenu des permis du gouvernement du Québec pour relouer à court terme des appartements dans l'immeuble, en indiquant qu'il s'agissait là de résidence principale, c'est-à-dire en mentant manifestement. Cela semble fonctionner pour l'entreprise, car personne ne semble vouloir sévir contre les propriétés Strawberry Incorporated. L'arrondissement espère peut-être que l'entreprise laissera tomber sa poursuite. Personne ne semble vouloir sévir. Plusieurs signalements ont déjà été faits à Revenu Québec, qui a le mandat de sévir contre les locations à court terme illégales. Le problème, c'est que l'arrondissement lui-même s'est contenté de signaler la chose à Revenu Québec, tout en tentant de balayer le problème du revers de la main. En effet, invectivé déjà au conseil d'arrondissement en décembre dernier, le maire, Pierre Lessard-Blais, de Projet Montréal, affirmait qu'avec le nouveau règlement, cette situation n'était pas possible. Il ajoutait également que rien n'indique qu'il y a des locations à court terme dans ce bâtiment-là, alors que les gens du quartier constataient facilement depuis la rue qu'il s'agissait carrément d'un genre d'hôtel. Les annonces sur Airbnb et la poursuite intentée par l'entreprise le démontrent également hors de tout doute. Pourquoi s'entêter ainsi à garder les yeux fermés et les bras croisés? Chose certaine, cette histoire a le potentiel de mettre Projet Montréal dans l'eau chaude, en pleine période des évictions et des reprises. Il faudra de la pression populaire. Peut-être que la notion de droit acquis sera suffisante pour que cette situation perdure et que les propriétés Strawberry Incorporated continuent à faire de juteuses affaires. Au-delà du problème constitué par cet immeuble précis, force est de constater que de nombreuses annonces Airbnb dans le quartier ne respectent pas les lois et règlements dans bien des cas. Mais si personne à l'arrondissement ne veut réellement sévir, vers qui se tourner? D'autres arrondissements ont créé des escouades d'inspection pour démasquer les Airbnb illégaux, mais elles doivent se contenter d'imposer des amendes minimes et de faire des signalements à Revenu Québec. Revenu Québec, qui gère ultimement les amendes salées et les sanctions contre les annonces illégales, semble manquer de mordant, ne distribuant que bien peu de constats d'infraction. Visiblement, les pouvoirs publics québécois n'ont pas l'intention de limiter les locations à court terme illégales. Ce sont les plateformes comme Airbnb qui sont responsables de s'assurer que les annonces qui sont affichées sont conformes aux lois locales selon la loi, et elles ne semblent pas non plus décidées à sévir. Le gouvernement du Québec, les arrondissements et la ville de Montréal pourraient pourtant s'inspirer de Barcelone, qui n'hésite pas à sanctionner Airbnb avec des amendes importantes. Mais visiblement, les pouvoirs publics québécois n'ont pas intérêt à limiter les locations à court terme illégales et ne comptent pas vraiment le faire bientôt. Et reste alors la pression populaire. C'était Airbnb illégal à Hochelaga, que fait l'arrondissement? Un texte de Julien Simard, paru le 29 février 2024 dans Pivot.
Un nouvel outil de dépistage du cancer colorectal est désormais offert aux Québécois. Un texte du Devoir, paru le 5 février 2024 dans Le Devoir. Le dépistage du cancer colorectal est désormais offert dans des points de service locaux sélectionnés dans l'ensemble des régions du Québec afin de faciliter l'accès à ce service pour la population. Dans un communiqué publié lundi 5 février 2024, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a précisé que les Québécois pouvaient prendre rendez-vous dès maintenant sur le portail web Clic Santé ou par téléphone. L'objectif de cette annonce est que les personnes âgées de 50 à 74 ans puissent avoir accès plus rapidement au dépistage du cancer colorectal, qu'elles soient orientées par un médecin ou non. Les autorités rappellent que ces personnes représentent la tranche d'âge la plus propice à être atteinte de ce type de cancer. L'accès au dépistage reposait, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, sur la prescription d'un test par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée. Le cancer colorectal est actuellement la deuxième cause de mortalité par cancer au Québec. Le gouvernement souhaite augmenter le nombre de personnes qui se font dépister chaque année afin de détecter ce cancer avant l'apparition des symptômes. En confiant un rôle aux points de service locaux mis sur pied pour désengorger les hôpitaux, le gouvernement met aussi à contribution d'autres professionnels comme les infirmières qui pourront dorénavant dépister les cas de cancer colorectal à l'extérieur des hôpitaux. Le ministère de la Santé rappelle que l'adoption d'un mode de vie sain et actif, ainsi que la réduction du tabagisme, de la consommation d'alcool et de la consommation de viande transformée, contribue à prévenir le cancer colorectal et la mortalité qui y est associée. C'était un nouvel outil de dépistage du cancer colorectal est désormais offert aux Québécois. Un texte du Devoir paru le 5 février 2024 dans Le Devoir.
La vie après la mort, un texte de Philippe Marois paru le 25 septembre 2023 dans Courrium. Dans un boisé de Bécancour au Québec, une enceinte hautement sécurisée protège une vingtaine de cadavres humains. Les corps se dégradent lentement, posés sur le sol. Chaque jour, une dizaine de chercheurs et de chercheuses de l'Université du Québec à Trois-Rivières observent attentivement leur décomposition. Le site reste Recherche en sciences thanatologiques, expérimentales et sociales est un lieu unique au Canada, et il en existe seulement quelques autres dans le monde, aux États-Unis et en Australie. L'objectif de ces sites est de comprendre comment se décompose un corps humain en pleine nature. Le processus de décomposition varie énormément selon les conditions météo. Les observations faites dans les climats secs et chauds des États-Unis ne nous sont donc pas très utiles. Comment s'opère la décomposition dans le climat continental humide du Québec? Après quelques mois, reste-t-il des tissus mous ou seulement des os? On ne le savait pas, explique la docteure Agathe Ribeiro-Gaillon, anthropologue médico-légale qui mène des recherches sur le site. Ainsi, depuis 3 ans, des donateurs et des donatrices de partout dans la province ont accepté que leur corps serve au projet de recherche. Les dépouilles reposent en forêt, dans des petites cages qui les protègent des animaux. Le site, entouré de clôtures électrifiées, de barbelés et de caméras de sécurité, est strictement réservé aux scientifiques qui viennent y faire des observations et des prélèvements. Le passé décomposé. Pourquoi étudier tous ces détails post-mortem? Pour aider aux enquêtes policières. Lorsqu'une dépouille humaine est découverte en forêt, il importe de déterminer avec précision depuis combien de temps elle s'y trouve. A-t-elle été déplacée? Les trous dans la peau ont-ils été causés par une arme ou par des insectes après le décès? Pour faire ces déductions, il faut savoir comment un corps se décompose dans le climat québécois, à quelle vitesse et quels indices peuvent être dénichés sur le cadavre pour l'identifier. Ces travaux de recherche peuvent paraître macabres, voire dégoûtants, mais selon Agathe Ribeiro-Gaillon, Les stagiaires et les scientifiques qui visitent le site sont souvent surprises de la sérénité qui se dégage des lieux. C'est une érablière, il y a des fleurs, des fougères et plein d'autres plantes. C'est très joli de voir comment la vie occupe l'espace tout autour des corps au sol. Découverte surprenante de l'équipe. La décomposition se poursuit même lorsque le mercure descend sous zéro. Elle est simplement ralentie. La peau s'assèche et colle aux os, comme sur les momies. Les scientifiques estimaient initialement que, dans un climat humide comme le nôtre, la peau se décomposerait rapidement. 4 jours après le décès, le corps est gonflé à cause de l'accumulation des gaz de décomposition. 2 semaines après, plusieurs insectes et microbes s'activent, ce qui favorise la décomposition des tissus. 2 mois après, le corps est quasiment vide, il ne reste que la peau séchée sur les os. Une fin heureuse. Compost humain. Un nombre croissant de pays autorise le compostage de corps humains. Le terreau qui en résulte est utilisé pour enrichir le sol dans des secteurs à reboiser. Parfois, il est plutôt remis à la famille pour cultiver des fleurs ou un potager. Récif artificiel. Moyennant quelques milliers de dollars, un organisme floridien propose de mélanger les cendres du défunt avec du béton. Ces grands blocs sont ensuite déposés au fond de l'eau afin que des coraux s'y fixent. Si les cendres n'ont aucun impact sur la fixation des coraux, l'initiative permet à tout le moins de financer la revitalisation des fonds marins. Cours de médecine. Les manuels d'anatomie ne permettent pas aux médecins en formation d'apprivoiser chaque détail du corps humain. Plusieurs départements universitaires utilisent donc encore des cadavres qui seront examinés et disséqués par la relève, en tout respect pour les personnes donatrices. Test de sécurité. Dans certains pays, des dépouilles humaines sont utilisées dans les tests de collision automobile. Donner son corps à la science. Le don d'organes et de tissus, on connaît bien, mais saviez-vous que dès l'âge de 14 ans, vous pouvez choisir de donner votre corps à la recherche et à l'enseignement de la science en cas de décès? Il suffit de signer une autorisation et d'en informer votre entourage. Au Québec, des universités ainsi qu'un cégep gèrent ces dons avec dignité et respect. Une fois les travaux terminés, les restes sont incinérés puis remis à la famille. C'était « La vie après la mort », un texte de Philippe Marois, paru le 25 septembre 2023 dans « Courrium ».